Seigneur notre Père, merci pour l'occasion encore de nous plonger dans ta parole qui nous donne la vie. Merci Seigneur de garder notre attention et de nous garder de l'appétit pour elle, de renouveler notre intelligence et notre compréhension de ce qu'elle dit, pour que nous portions du fruit pour la vie éternelle. Ne nous laisse pas stérile, Seigneur, ne nous laisse pas oisif, ne nous laisse pas tranquille, mais Seigneur, fais de nous ces hommes et ces femmes que tu as prévus de toute éternité, accomplis en nous, vouloir le faire, Seigneur, et change-nous pour que ressemble à Jésus de plus en plus. Dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen.
Amen.
On devait commencer une série sur Jonas cette semaine. On va commencer la semaine prochaine. C'était le tour de Patrick, normalement. Alors, je me suis dit, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à la suite de Romains chapitre 11. On avait vu le dernier verset de Romains chapitre 11. Alors, rapidement, pour nous répéter encore, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ, grâce et paix à vous, à tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, saints par appel, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé donc au début de ce chapitre de l'empire du péché qui règne avec la loi. Tout le monde est en échec devant les commandements de Dieu. Personne ne peut prétendre résister comme les villages gaulois qui résistaient. Non, le péché règne absolument partout et tient les hommes prisonniers. Mais Jésus-Christ est intervenu et il est pris sur nous, on l'a chanté ce matin et on l'a médité ce matin. Il a pris notre faute sur lui et nous rend libre. Conformément à ce qui avait été promis par Abraham, la justification par la foi seule, sans les œuvres, et David atteste, et la joie que cela procure. Et l'œuvre du Saint-Esprit que l'on reçoit, et cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et Jésus-Christ, c'est le nouvel Adam. Depuis Adam, la mort règne et la loi ne fait que renforcer ces choses-là. Mais en Jésus-Christ, tout change. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement qu'il y a, même si en Adam, les choses vont aller jusqu'à leur fin. La grâce de Dieu est là pour nous. Alors on est en chemin, on est en route, on est quelque part par là. Et il s'agit bien de quitter l'empire du péché, de ne pas rester là, de ne pas rester sur sa loi, sur ses dominations. Alors on a un acte de décès, on est mort, mort au péché. Notre décès est attesté avec la mort de Jésus-Christ à la croix. Et on a une nouvelle identité, ressuscité avec lui, le passeport qui fait de nous des enfants de Dieu, des citoyens des cieux, et d'offrir nos mains, nos membres en sacrifice, comme un sacrifice vivant, comme ce qu'on va voir aujourd'hui, le Seigneur nous veut à nouveau, en effet pour lui, à plein temps. Vers la gloire conduite par le Saint-Esprit, tel le peuple de Dieu dans le désert qui suivait la colonne de fumée, et puis un jour, ce sera la victoire totale, la résurrection, le renouvellement de toutes choses. Alors, amen. Offrez vos corps à Dieu. Soyez transformés. Je vous encourage, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps à Dieu. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part. un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Les compassions de Dieu. Ce n'est pas l'histoire que Paul aurait jusqu'à présent, voilà, Dieu a fait tellement de choses pour nous, maintenant à nous de faire pour lui. Et tout à coup on se retrouverait, voilà, retombé dans un système où il faut faire les choses parce que Dieu a fait pour nous, donc à retour on fait pour lui. C'est, on lui doit ça, on lui doit bien ça. Non, c'est pas... Cet encouragement, c'est par les compassions de Dieu, c'est par le même amour, la même motivation qu'il a eue en envoyant son Fils sur la croix. C'est ces mêmes motivations d'amour qui nous exhortent ici, la même chose, le même désir qu'il a de notre bien, de nous sauver, de nous prendre avec lui, de nous appeler auprès de lui. C'est ces mêmes motivations et cette exhortation de Paul, cet encouragement de Paul. Il ne faut pas le comprendre différemment de ce qu'il a dit avant, de tout cet amour de Dieu qu'il veut répandre et qu'il répand par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Voilà, par les compassions de Dieu. Dieu a compatissant envers nous, envers les pécheurs que nous sommes, et à cause de cela, il demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il n'y a pas de... Je crois que j'ai été vite dans mes notes. Ouais. Un sacrifice divin, saint, agréable à Dieu. Offrir notre corps. Romains 6, 12, 14, hein, qu'on a vu. Disait de pas nous livrer au péché, mais au contraire de nous livrer à Dieu. Et l'apôtre ici ne va plus nous parler de péché, de choses comme ça, de tout ce qu'il a développé. Le mot péché, je crois, il est mis une cinquantaine de fois dans les premiers chapitres, mais là, dans les chapitres suivants, on est passé après Romains chapitre 8 pour une nouvelle vie. Et donc, on regarde les choses du Seigneur, on ne regarde plus au passé. Offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, un culte raisonnable. C'est un culte qui est logique, qui est normal. La vie chrétienne normale, c'est ça. C'est offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, on peut penser au sacrifice de Jésus-Christ. En Jean chapitre 8, verset 29, il a dit qu'il faisait tout ce qui était agréable à Dieu. Et faire les choses qui sont agréables à Dieu, voilà, c'est ça, faire un sacrifice vivant. En Jean chapitre 17, Jésus parle de sa consécration à Dieu pour nous. Voilà l'exemple d'un sacrifice vivant. C'est la vie qu'a eu Jésus-Christ ici-bas. Saint, il était agréable à Dieu en toutes choses. Celui qui fait toute ma joie, celui qui fait tout mon plaisir, disait Dieu le Père. Et voilà, offrir notre corps. Un culte raisonnable, donc ce sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique. Ne vous conformez pas au monde actuel. D'abord, il parle d'offrir notre corps. Après, il dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Et ça, c'est, je crois, le plus difficile, du moins, je ne sais pas. Mais c'est là où il y a vraiment, on tombe dans le dur à cause de notre culture ambiante, qui est contre, qui est ennemi de Dieu. Et il n'y a pas eu de culture ambiante dans l'histoire qui soit, je pense, meilleure l'une que l'autre. Il y a toujours cette difficulté par rapport à la culture ambiante, parce qu'on est dans un système de pensée qui est le système de pensée dans lequel on a grandi, qui nous entoure, qui nous pénètre, qui nous est l'esprit du monde par une façon ou par une autre influence l'Église de Jésus-Christ. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Ne vous conformez pas au monde actuel. Avoir des pensées, une vision du monde, une vision de la vie qui est radicalement différente de ce que on peut rencontrer chez nos contemporains. Ne pas se conformer, c'est souvent aller à contre-courant de ce qui se fait, et la pression est forte parce que voilà, le monde, il aime bien que tout le monde soit aligné, tout le monde doit faire la même chose. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrir vos corps et transformer par le renouvellement de l'intelligence. Les deux vont ensemble et on voudrait bien avoir les pensées qui sont renouvelées, l'intelligence qui est renouvelée, mais on oublie l'étape de offrir notre corps à Dieu. Offrir notre corps à Dieu. Et les deux vont ensemble. Et on va pouvoir agir, pouvoir entrer dans ce qui est bon, agréable et parfait, par notre corps qui fait ça, nos actes, notre bouche, tout ce qu'on fait. Il faut cette transformation aussi de l'intelligence. Et les deux vont ensemble. Mais si on relit Romains chapitre 6, pour quitter l'empire du péché, il commence déjà en disant « Ne livrez pas vos membres au péché, livrez vos membres à Dieu. » C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas d'abord, il faut avoir des pensées correctes, enfin, après, je pourrais peut-être servir Dieu. Non, on sert Dieu. Il a mis deux choses l'une après l'autre. Mais le renouvellement de notre intelligence, une façon de voir les choses qui sont comme Dieu, avoir les pensées de Dieu, voir les choses comme le Seigneur. Il a dit, je vous appelle mes amis parce que je ne vous ai rien caché je ne vous ai rien caché de ce qui concerne mon Père. Et voilà, avoir les pensées de Dieu. Enfin, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon. Ce qui est bon. On a médité au début du culte avec ce regard de bonté que Dieu avait sur nous. Ce qui est bon, c'est ce qui est bien également. C'est le même mot, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable. On doit passer d'un système où on est sans Dieu au début et tout ce qu'on fait est, du point de vue de Dieu, des choses qui sont haïssables. Et on croit aimer, mais on ne le fait pas bien. Et quand on regarde le résultat macro de l'humanité, bon, c'est pas... On voudrait que ce soit que les hommes s'en tirent très bien tout seuls, mais objectivement, c'est pas le cas. C'est pas la bonté de Dieu telle que Jésus-Christ l'a manifestée en humain sur la croix. Et donc, il doit rentrer dans ce qui est bon. Enfin, de faire les choses bonnes. Enfin, de faire ce d'être ces personnes qu'au fond de notre cœur on voudrait être, on voudrait tellement ressembler à Jésus, on voudrait tellement être des personnes différentes de ce qu'on est, être dans rentrer dans une vie qui est différente, qui est bien, auquel on aspire profondément, et c'est ce que Dieu veut. Que nous offrions nos corps, que nous soyons transformés. Et alors, dans toute la suite, jusqu'au chapitre 16, l'apôtre, il va développer tout ça, et on va faire un survol. Je voudrais qu'on lise plein de passages, parce que il laissait la place à la parole de Dieu. Alors, vous inquiétez pas, j'ai mis tout là. Faites le bien en équipe. Faites le bien. Faites le bien en équipe. C'est ce premier, premier passage par la grâce qui m'a été donné. On peut lire, on peut faire une lecture. On est trois, un verset chacun. Le texte est tellement parlant. C'est pas la peine que j'ajoute beaucoup de paroles.
Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée.
En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.
Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée ou accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi.
Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Celui qui enseigne se donne à son enseignement.
Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Et celui qui donne le passe avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le passe avec joie.
Un corps, donc, où chacun a un rôle à jouer, une équipe. C'est une équipe qui doit faire le bien en équipe. Et le faire concrètement. C'est des choses qui sont concrètes. L'amour de Dieu est très pratique, est très concret, que ce soit à l'intérieur de l'Église, entre nous, ou que ce soit à l'extérieur, vis-à-vis du monde, comme on dit. Alors, je ne sais pas qui c'était Jean.
Oui, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.
Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière.
Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.
Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
Si cela est possible, à la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons par la vie.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Concrètement, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Faire le bien même... par rapport à l'État, on se plaint souvent de l'administration, on se plaint souvent des personnes qui nous dirigent, on se plaint de ça, mais le bien continue et doit avoir le dernier mot, et de changer notre regard sur ces autorités comme voyant Dieu derrière chacune. Chapitre 13, donc, ce passage bien connu, verset 1.
Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation.
Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal.
Et non nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de confiance.
C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction.
Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Faire le bien également, hein, avec cette pensée que le retour du Seigneur est proche, il a confié une tâche à ses serviteurs et il a dit, je ne savais pas quand est-ce que je reviendrai, mais c'est super, si le, quand je reviens, je vous trouve au travail. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.
En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps vous mourrez. C'est l'heure de vous réveiller en plein du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous qu'au moment où nous avons cru.
La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme un plein jour, sans origine ni grognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie.
La mauvaise vie du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de votre plaisir propre pour satisfaire ce que vous avez.
Faites le bien en accueillant frères et sœurs sans faire d'histoire. On est dans le contexte ici de ce qu'on a vu dans les Corinthiens avec les lianes sacrifiées aux idoles. À cette époque-là, les viandes, on en trouve au marché. Quand on tue une bête, il y a énormément de viande. Qu'en faire? On invite les voisins, tout le monde peut manger à tour de rôle comme ça. On peut avoir de la viande régulièrement, chacun abattant un animal et partageant, invitant tout le monde. Un animal abattu, c'est énormément de nourriture. Et puis on en trouve, il y en a qui ont ensuite revendu au marché. Mais cette viande, voilà, elle était généralement consacrée à des idoles. Elles étaient tuées, mises à mort, à l'honneur de dieux, de faux dieux qui sont des idoles. Et donc ça choque tellement une personne qui professe le nom de Jésus, qui ne veut pas du tout rien avoir avec quelque chose qui a été passé sous un autel idolâtre. Et donc il préfère ne pas manger de viande. Et c'est de ce contexte-là que l'apôtre parle de ce problème de viande sacrifiée aux idoles, mais qu'on se retrouve de nos jours sous différentes formes. Et les problèmes alimentaires, vous savez que c'est compliqué de nos jours. Il y a toutes sortes de règles qui se mettent en place, et de ceci et de cela, pour rester en bonne santé, pour ceci, pour cela. Et il peut y avoir aussi plein de complications autour de problèmes alimentaires, mais l'idée, c'est vraiment de accueillir son frère, accueillir sa sœur, quelle que soit la façon dont il voit les choses, quelquefois sa culture, même si ça correspond pas pile poil à ce que on est instruit quand la parole de Dieu a travaillé en vie. À moi, qui sait.
Accueillir celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions.
L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes.
Que celui celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Car Dieu l'a accueilli.
Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne de bon ou de temps, cela regarde son Seigneur. Mais il t'aidera bon, car Dieu a le pouvoir de l'infirmier.
Tu vois qu'il y a une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Chacun dans son esprit une pleine conviction.
Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu.
En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même.
Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur.
En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ.
Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun tira le genou devant moi et tout à l'heure pour rendre gloire à Dieu.
Ainsi donc, chacun de nous prendra compte à Dieu pour lui-même.
Ne nous jugeons donc pas les uns et les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre vie.
Faire le bien, même s'il faut renoncer à certaines libertés, on est très attaché à sa liberté, à des choses qu'on estime pouvoir faire. Et qu'on ne veut pas que personne nous impose quoi que ce soit dans un certain domaine. On a nos convictions. Et voilà ce que dit l'apôtre par rapport à cela. C'est à qui? C'est à moi. Je sais, et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui.
Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui pour lequel Christ est mort.
Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie.
En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.
Ainsi donc, j'ai choisi de contribuer à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi.
Au de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un.
Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle.
Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve.
Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché.
Faire le bien, même s'il faut renoncer à des libertés, faire le bien en ne cherchant pas ce qui nous plaît.
Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît.
Que chacun de nous cherche à faire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi.
En effet, Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi.
Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donne les Écritures, nous possédions l'espérance.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ.
Afin que tous ensemble, de tous les voies, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Faites le bien en accueillant vos différences. Il y avait des différences radicales entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive. C'était deux mondes différents qui devaient cohabiter, partager même avenir, une même pensée dans l'Église. C'était un seul corps. Ils étaient réunis là, on en a longtemps parlé. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu.
J'affirme en effet que Christ est devenu le serviteur de circoncis pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres.
Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom.
Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple.
Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples.
Isaïe dit aussi, il paraîtra, le rejeton d'Isaïe, qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Accueillir nos différences, quand on est tous pareils, c'est facile. Quand on est des chrétiens qui viennent de milieux différents, c'est plus difficile. Il y a ceux qui sont nés dans un milieu charismatique, il y a ceux qui sont nés dans un milieu catholique, il y a ceux qui sont nés dans un milieu réformé, il y a ceux qui sont nés dans un milieu évangélique comme le nôtre. Ça fait des, on dirait des gens qui sont trop différents de nous, les chrétiens, mais ils sont trop différents de nous. C'est pas possible. On peut pas être ensemble. Mais le Seigneur nous demande de regarder plus loin parce que Dieu a un plan qu'on ne peut pas complètement saisir. Dans son entier, et pourquoi il permet que des chrétiens agissent de telle manière et pourquoi il permet que d'autres agissent de telle autre façon, et ça nous semble pas possible, mais bon, voilà, c'est Dieu et il est souverain sur son Église, alors il faut faire le bien en s'accueillant les uns les autres comme Christ nous a accueillis, comme Christ nous a accueillis. Faire le bien en travaillant à l'évangélisation. Brad Dixon a écrit un commentaire, et il est prof à l'Institut biblique de Genève, et il donne, c'est lui qui enseigne l'Épître aux Romains. Je ne sais pas s'il dit, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais, c'est lui qui le faisait. Et il a écrit un commentaire, et dans lequel il présente l'épître de pourquoi Paul a écrit l'épître aux Romains. Il avait l'objectif d'évangéliser l'Espagne. Et pour aller depuis Antioche jusqu'à l'Espagne, ça fait une sacrée distance. Et donc, peut-être ce qu'on comprend en lisant l'épître aux Romains, c'est qu'il aurait bien voulu qu'il ait un soutien plus local à Rome, que les chrétiens de Rome le soutiennent dans ce projet d'évangélisation de l'Espagne. Et c'est pour ça qu'il écrit cette lettre, pour présenter sa foi, pour dire exactement, voilà les choses que j'enseigne, voilà moi, Paul, quel est l'évangile que j'ai reçu de Dieu, et pour que se mettre d'accord sur, comme on dit, sur la doctrine, sur ce que moi, quand je vais vers les païens, voilà ce que j'enseigne, et j'ai le projet d'aller en Espagne, voilà ce que je voudrais leur enseigner. Et tout le monde a besoin également de découvrir le Seigneur, tout le monde a besoin également d'être édifié, et donc il passe des longs textes ici à encourager ses frères et sœurs par rapport à l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. L'évangélisation, comme le Seigneur a dit, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les tout ce que je vous ai appris. Et donc il y a toute cette volée de pionniers, d'annoncer l'évangile, et tout ce travail après de faire des disciples, de les fortifier, de les faire grandir dans la foi. Tout ce travail-là, c'est un travail qui est central et il ne faut jamais perdre de vue cela, jamais perdre de vue l'évangélisation. Et on doit tous avoir, y prendre part. On doit tous y prendre part. Ça peut être fait de tellement de façons différentes. La façon la plus simple, c'est de prier pour tout ce travail de diffusion de la parole de Dieu. Et on a vu, tant que le monde, l'évangile ne sera pas répandu partout, le Seigneur ne pourra pas venir. Hein. Donc, il y a, c'est notre part ici, ce grand commandement, cette grande commission que Dieu a laissée à son Église, à travailler avec l'évangélisation. Il ne faut jamais perdre de vue cela, et c'était central dans le ministère, dans la vie de Paul, dans tout ce qu'il a fait. L'évangélisation était centrale. C'était son ministère, toute sa vie, et il veut que l'Église de Rome entre avec lui là-dedans. Et nous aussi jusqu'à présent. Donc dans tout on doit toujours avoir cette pensée pour l'évangélisation, et ça doit nous prendre à la tripe, nous inquiéter, nous faire du souci. Quand le pasteur Dovi était là, il nous a encouragé et exhorté là-dessus, parce que lui n'imaginait pas une église qui n'est pas dans le travail de l'évangélisation. C'était pour lui quelque chose de pas normal. Et ça peut se faire de mille et une façons. De mille et une façons, on peut y prendre et on doit y prendre part. Faites le lien travaillant à l'évangélisation. On est Romains chapitre 15 et on arrive bientôt à la fin avec les salutations du chapitre 16. Et à la fin, des exemples. Paul donne toutes sortes d'exemples, il cite des personnes qui ont fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, à tel moment, et c'est tellement varié, c'est tellement différent, tout est différent, mais il y a toutes ces personnes qui sont nominativement nommées, et il y en a beaucoup, alors qu'il n'avait jamais été à Rome. Moi, je m'imagine l'église de Rome, celui qui reçoit cette lettre, mais il se dit, il devait y avoir plusieurs églises à Rome, c'était une mégapole. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ce texte, il faut le recopier, le recopier, le recopier, le recopier, le recopier, le diffuser à toutes les églises qu'on a. Et puis toutes ces personnes-là, elles sont où? Elles sont où à Rome? Il faut les chercher, il faut qu'ils aient ce message de salutation personnelle de Paul. Je les imagine se mettre en peine pour que chacun puisse recevoir les salutations. Et les salutations, c'est pas seulement Paul qui les fait, mais tous ceux qui sont avec lui, là où il est, s'il est en prison, je ne me souviens plus là tout de suite des circonstances qui ont été évoquées pour les conditions de rédaction de l'épître de Paul aux Romains. Je ne l'ai plus en mémoire, mais celui qui a écrit la lettre, lui aussi, il envoie ses salutations. Et tout le monde envoie ses salutations. Un corps de Christ, une famille, une église. Et on a cette belle image qui, pour terminer, qui nous renvoie à ce qu'il a fait au début, de nous rappeler que voilà, nous sommes un corps. Nous sommes une seule et même famille, un seul et même peuple de Dieu. Et concrètement, ça se voit. Et l'apôtre Paul nous laisse ses salutations à la fin comme une démonstration et de ce que nous sommes, le peuple de Dieu, et de ce que chacun a un rôle à jouer, a quelque chose à, comme dans un grand orchestre symphonique, on a la semaine dernière entendu ces belles louanges de Dieu, ce beau chant où on me dit, mais c'est tellement beau, mais chaque choriste a sa place, a ses notes à jouer, des instruments, etc. Et c'est pour tout ça, pour la gloire de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. On pourrait penser, c'est fini là? Non. Il y a encore un petit quelque chose que Dieu veut nous laisser, que l'Esprit Saint a inspiré à Paul. Faites le bien, car Dieu vous en rend capable. Et s'il n'y avait pas ces derniers versets, on partirait, on quitterait la salle avec de la crainte, avec de peut-être un sentiment d'échec par anticipation. Verset 16. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce. Dieu peut, c'est, il a toute la puissance pour cela. Toute la puissance de Dieu est disponible pour cela. Et c'est pas quelque chose qui Dieu peut le faire. Selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles, Dieu peut faire cela en nous. Il a la puissance de le faire et il va le faire et il veut le faire. Alors, si on pensait que c'est par nos propres forces, on n'y arriverait pas. Mais Dieu a la puissance pour cela. C'est lui qui va le faire, à travers nous, avec nous. Ce mystère a maintenant été manifesté, porté à la connaissance de toutes les nations, et de nous, ici à Figeac, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'ils obéissent à la foi. On nous rappelle la première introduction où Paul... à cette lettre à ses Romains, il veut qu'ils obéissent à la foi. Et le but d'obéir à la foi, de rentrer dans une démarche d'obéissance à ce Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, je voudrais nous laisser avec... une nouvelle perspective dans tous ces chapitres, une nouvelle perspective de vie. C'est possible parce que la puissance de Dieu est là pour que tout cela puisse s'accomplir. Alors des fois on est découragé par nos échecs, on est découragé par ce qui se passe autour de nous et on m'a dit mais ça va pas aller, tel frère, telle sœur, mais il va sombrer, et on est en train de prendre l'eau, on va couler, ça va être la ruine totale. Non, Dieu peut faire ces choses-là. Ayons foi en lui, ils obéissent à la foi, ayons foi à ce que nous ne voyons pas pour le moment, Dieu peut le faire. Dieu peut sauver les personnes qu'on aime. Dieu peut faire tellement de choses. Voilà, ayons et gardons la foi en lui. Et vivons pleinement cette vie chrétienne, de pas être à moitié clopinant, un pied dans les choses du monde, un pied dans les choses de l'Église, comme les Israélites du temps d'Élie. Et des prophètes de Baal qui leur mettaient la pression là pour dire voilà. Et je voudrais qu'on parte de cette salle ce matin avec cette pensée que voilà, Dieu peut. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'est-ce que nous sommes devant elle? Qu'est-ce que je suis? Je suis comme mes frères, je suis comme mes sœurs. Et on est tous là à regarder à toi. Tu connais nos difficultés personnelles, tu connais nos défis, tu vois tous les défis de ton église, de Figeac. tu vois notre faiblesse, notre petitesse. Mais, Seigneur, nous devons dire que nous regardions à Jésus. Que nous regardions à ton grand amour. Que nous regardions à tout ce que tu as promis, que tu avais commencé ton appel. N'allez pas tomber, ne va pas faire un chou blanc. Ne va pas être ton appel est irrévocable. Et Seigneur, tu mèneras tout à la perfection. Tu accompliras et tu mèneras au bout cette œuvre que tu as commencée. Seigneur, accorde-nous de tout notre cœur d'y adhérer, de tout notre cœur d'adhérer à cela et de vouloir y prendre notre part. Merci que cela déborde sur tous nos frères et nos sœurs également. Nous te prions pour tous ceux qui sont pas là ce matin. Nous te prions pour nous. Nous te prions pour nos familles, nos conjoints, nos épouses. Nous te prions, Seigneur, pour tout ce grand fardeau qui nous semble tellement immense, telle grande montagne. Seigneur, nous voulons avoir la foi et vivre cette vie que tu as prévu que nous vivions, loin du péché, comme Jésus. Dans le nom de ton Fils.